hier, dans le cadre de l'assouplissement du confinement, les libraires, les rayons livres des grandes surfaces ont pu rouvrir. Un retour à la normale et une passion du livre dont j'aimerais parler ce soir sur Europe 1 avec mes invités. Sophie de Closet, bonsoir.
Bonsoir Wendy.
Vous qui dirigez la maison Fayard, vous éditez notamment tout récemment les mémoires de Barack Obama et avec nous l'auteur Miguel Bonnefoy. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous doit Héritage qui vous a permis d'être en lice pour le Fémina, le Goncourt, le Grand Prix de l'Académie française, Miguel Bonnefoy. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Sophie? Que le gouvernement ait classé pendant le confinement ses rayons livres dans la catégorie des biens non essentiels ou qu'une partie des Français ait revendiqué le contraire?
Les deux, et d'ailleurs je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Je pense que j'ai pas compris le choix du terme bien non essentiel qui me paraît vraiment extrêmement malheureux.
Oui.
Et en tout cas, c'est sûr que c'est ce choix assez malheureux a rappelé ou convaincu ou radicalisé tout le monde dans le fait qu'on n'était pas que des êtres biologiques et qu'on avait besoin aussi de lire, mais aussi d'aller au concert, d'aller au théâtre, d'aller au musée, de culture, d'ouvrir notre horizon d'imaginaire et de savoir le plus possible. Et c'est vrai que, en tout cas, l'attrait du livre s'est confirmé pendant cette année, ce qui est sans doute assez positif, même si la situation a été très dure pour beaucoup d'auteurs et beaucoup de libraires,
bien sûr,
certains éditeurs notamment.
Mais ça nous fait du bien de parler un peu positif avec vous. Vous avez les derniers chiffres de vente des mémoires de Barack Obama, Sophie de Closet?
Oui, alors aux États-Unis et au Canada, il en a vendu en une semaine 1 800 000 exemplaires, ce qui est complètement incroyable.
Oui.
Et en France, enfin en langue française, on est autour de 60 000 exemplaires vendus en une semaine.
En une semaine, ce qui est énorme hein, dans ce contexte.
C'est complètement incroyable.
Ouais.
Ouais.
Vous y attendiez à cela,
à ce
sursaut?
Non.
Ouais. Vous qui avez déjà édité les mémoires de son épouse, hein, Michelle Obama, qui avait un très bel écho aussi chez vous.
Oui, mais là, c'est vrai que le démarrage s'est fait très fort et qu'on était très contents de voir que beaucoup de libraires ont pu bénéficier de l'attente qu'il y avait autour de ce livre.
Bien sûr.
Pour ces dernières semaines de click and collect où ils se sont démenés pour essayer de tenir bon dans des circonstances compliquées. Et on est tous contents que ce soit fini.
Comment vous avez vécu, vous, cette période, Miguel Bonnefoy?
Vous pouvez imaginer, pour un auteur qui vient de sortir un livre, c'est toujours délicat. Mais je pense aussi aux auteurs qui ont publié en janvier ou qui ont publié en mars cette année, bien au-delà de la rentrée. Ça a été encore plus dur pour eux, peut-être, parce que les libraires n'étaient pas encore prêts pour faire ce click and collect, pour faire quelques livraisons, pour pouvoir accompagner comme ça les auteurs. Nous, on a eu en effet le mois de novembre et de décembre toutes les annulations de toutes les rencontres littéraires qui étaient en train de se faire. Ça a été difficile. Mais paradoxalement, curieusement, jamais dans aucune année en France, on a autant parlé des libraires. On n'a donc jamais autant mis en avant le livre. Et moi, j'ai observé que ça a été presque les meilleures ventes que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Oui, ça m'intéresse d'avoir votre regard, d'ailleurs, un peu en corrélation avec une des thématiques de votre livre, ces Français qui s'exilent au 19e siècle après la crise du phylloxéra, leurs vignes sont anéanties et ils partent, ils migrent eux, alors qui au Chili, en Argentine, en Californie, de voir cet esprit français aujourd'hui en 2020, Miguel Bonnefoy, qui revendique ce livre comme bien essentiel dans une période trouble, qui se raccroche à ça, ce livre qui devient un objet de résistance, on a entendu ces mots quand même. Comment vous réagissez-vous?
Eh bien, je suis très touché par ces mots généreux. C'était sans doute le fait de pouvoir parler de certains Français qui ont été migrants autrefois, qui ont été à la place de ceux qui aujourd'hui sont dans des caravanes dangereuses, mais également de pouvoir parler des Français qui, dans les années 70, ont su accueillir des migrants de toute l'Amérique latine, qui ont su ouvrir leurs bras, ouvrir les frontières, savoir leur donner un numéro de sécurité sociale, une maison, leur permettre de donner à leurs enfants une éducation qui est positive, a fait qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, il y a un écrivain qui est en train de rendre hommage à ces hommes-là. Et c'est tout simplement une sorte de générosité, une monnaie d'échange que je suis en train de donner. Et ça fait sans doute réfléchir à tous les migrants qui sont en ce moment aux portes de l'Europe. Peut-être qu'il y a parmi eux dans leur tente un prochain Mozart, un prochain Beethoven, un prochain Aragon, un prochain Romain Gary, ou des astrophysiciens qui vont nous éclairer plus tard.
Oui.
Alors est-ce qu'à ce moment-là, le livre devient un acte de résistance, devient une arme pour pouvoir se dresser contre des horreurs? Eh bien, le livre, comme autre chose, comme le disait tout à l'heure Sophie, eh bien, heureusement que nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang, mais que nous avons besoin d'imagination pour pouvoir avancer.
Bien sûr, d'imagination, de mémoire, de transmission, c'est essentiel. Et voilà pourquoi, sans doute, beaucoup de nos concitoyens ont jugé qu'on ne pouvait pas leur interdire cet accès à la connaissance, que ce soit dans les hypermarchés qui ouvrent justement ces rayons-là à ceux qui sont peut-être un peu exclus du livre, dans les librairies indépendantes. Sophie de Closet.
Oui, bien sûr. C'est en même temps, ce qu'on a vu, c'est l'importance de la librairie comme lieu de prescription. C'est-à-dire que des éditeurs, par exemple comme Fayard, on va bien s'en sortir cette année parce que tout ce qu'on a vécu a accéléré la concentration des ventes sur un tout petit nombre de livres. Donc quand on a la chance d'avoir ces livres qui sont très attendus ou avec des auteurs qui sont reconnus, qui ont un public qui les attend, fidèles, on s'en sort assez bien puisque eux surperforment. Mais c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ont passé des années et des années à faire des livres qu'on trouve merveilleux et qui sont sortis dans l'indifférence générale. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé.
Oui.
Et ça, c'est absolument atroce. Et on se rend compte que la librairie, c'est ce lieu où on entre pour acheter le merveilleux livre, par exemple, de Miguel. Et puis on sort avec le livre de Miguel et puis un autre livre dont on ignorait l'existence avant d'y être entré. Et quand vous allez en click and collect, c'est-à-dire vous demandez à l'avance, ou quand vous achetez en ligne, vous achetez des livres que vous connaissez déjà. Et on s'est bien rendu compte à quel point notre écosystème, qui est vraiment un écosystème très particulier, que le monde nous envie, avec un nombre de points de vente, de libraires, qui sont des prescripteurs, des acteurs culturels protégés par la loi Langue, est absolument capital pour préserver cette diversité et cette créativité. Et j'espère que dans les années qui viennent, le secteur de la culture, et encore une fois celui du livre, n'est pas le plus mal loti, donc on ne peut pas se plaindre, parce que de tous les secteurs culturels, vraiment, on s'en est le mieux sorti. Mais on se rend bien compte à quel point on a besoin de risques, d'essayer, de temps long, de construire une œuvre, de tous ces moyens de prescription, pour pouvoir avoir une diversité, justement, d'imaginaire, de talent qui s'exprime.
Et pour ces auteurs dont vous parliez, dont parlait Miguel, qui ont sorti en janvier, février ou mars, et qui, hélas...
Ou en octobre,
dans ces périodes de très, très compliquées. Que fait une maison d'édition? Est-ce qu'elle peut remettre ses livres en vente? Est-ce qu'ils sont tous partis au pilon? Est-ce que c'est fini? Il n'y a pas de seconde vie du livre?
C'est compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, journalistes, on a besoin des libraires. Après, on a toujours des bonnes surprises. On a aussi la chance d'avoir des livres qui ont parfois une deuxième vie en poche, au format poche, ou en livre audio, et donc, ou parfois en adaptation. Et donc, du coup, on peut voir rejaillir le feu du
l'ancien volcan. Voilà, Sophie de Closet. Merci, parce qu'il paraît qu'avec Miguel Bonnefoy, vous parlez en alexandrin. C'est sympa, ça. Enfin, vous vous connaissez un peu tous les deux.
Absolument. Hein, on s'est rencontrés à Rome, et dans les galeries souterraines de la Villa Médicis. On était en train de chercher ensemble de l'or et quelques bouteilles de vin.
Mais ça crée des liens.
Malheureusement, on ne les a pas trouvés maintenant, ici, ce soir, avec vous.
Le réseau de résistance dont parlait Sophie de Closet, Miguel Bonnefoy, que vous connaissez bien, c'est le réseau aussi de ces librairies française. Avec François Bunel, ils ont plaidé, milité dans une pétition pour la réouverture précoce de ces librairies. 200 000 signatures. Après, sur cette antenne, on a vu par exemple Alexandre Jardin dire « Écoutez, moi je vais prendre, avec d'autres auteurs, on va prendre en charge les amendes si des libraires sont sanctionnés. » Cette solidarité face à cette période fragile, ça aussi, ça doit inspirer l'auteur que vous êtes, Miguel Bonnefoy. Et vous touchez de surcroît, car vous êtes écrivain.
Absolument, écrivain et en plus fils d'un réfugié politique qui, lui, a toujours été dans une attitude engagée dans la vie. Donc, fatalement, face à cette nouvelle menace de fermeture de librairie, il était important de savoir se dresser. Chacun l'a fait à sa façon. Il y a certains auteurs qui ont voulu, en effet, rallumer l'incendie des librairies. D'autres, au contraire, l'ont fait avec la radio. L'autre, ont fait par des textes. Moi, on m'a demandé d'écrire des articles. On m'a demandé également d'accompagner par Zoom, ou faire des vidéos de quelques textes qui étaient sortis ici et là, dont on avait peu parlé, et il s'agissait d'essayer de les mettre en avant en lisant quelques passages, en les défendant comme on pouvait. Aujourd'hui, la situation est comme elle est. Finalement, on avance à l'aveugle, on avance à tâtons, mais il ne faut pas oublier aussi que plus ou moins tout le monde est en train de marcher à l'aveugle. Moi, je vois comment mon père qui habite au Chili et ma famille qui habite au Venezuela sont dans des situations bien plus catastrophiques et dans une crise économique qui est bien plus profonde, et que finalement d'être en train de se demander si oui ou non on allait faire ce click and collect et tout ça, parfois dans ce que je voyais sur le WhatsApp ou ce qu'on pouvait me dire ici et là, semblait relatif. La situation est terrible. Peut-être c'est le moment, en effet, pour les écrivains d'écrire, pour les libraires de rouvrir, bien entendu, pour les éditeurs de publier de grandes voix merveilleuses, et pour vous de pouvoir créer l'éventail.
Diffuser aussi ces voix. Miguel Bonnefoy est avec nous. Sophie de Closet, cette fermeture des librairies a compliqué évidemment le choix des tirages, a réorienté votre stratégie et votre politique. Vous avez senti très clairement, même si Fayard est une grande maison, que que tout était extrêmement fragile et que tout pouvait s'écrouler comme dans une économie culturelle comme celle-ci?
Encore une fois, s'écrouler peut-être pas. C'est vrai qu'on a dû décaler beaucoup de livres, on a dû s'adapter, on a dû faire preuve de, autant qu'on pouvait, d'agilité et de résilience. Mais généralement, les éditeurs, dans l'éthos de l'éditeur, on se plaint beaucoup. Et vraiment, cette année, pour avoir des amis restaurateurs ou qui sont dans le théâtre ou qui sont dans le cinéma,
je ne peux pas
me plaindre trop. Parce que, de fait, force est de constater qu'aussi le temps et l'argent que les gens ne consacrent plus, malheureusement, à aller au restaurant, au théâtre, à voyager, à aller dans les festivals, dans des concerts, etc., l'offre culturelle nouvelle qui leur est accessible, moins, mais à partir de maintenant, désormais beaucoup, c'est le livre. Et donc, du coup, comme dit Miguel, ça n'a pas été une année facile, surtout pour des auteurs et surtout pour certains libraires, mais je ne vais pas trop chouiner.
Avec les prix littéraires aussi qui peuvent aider à redémarrer les ventes pour certaines maisons, les palmarès du Goncourt et du Renaudot attendus demain. Ça vous a fait quoi, Miguel, d'être en lice, je le disais, pour ces plus grands prix? Alors, pas finaliste au bout du compte, on l'aurait souhaité pour vous, mais le Goncourt, le Fémina, le Grand Prix de l'Académie française, ça c'est magnifique.
Ah, vous pouvez imaginer j'étais honoré. En plus, moi je viens d'arriver ici en France, je suis arrivé il y a 7 ans, et ce n'est que mon 3e roman. Moi, je ne fais que commencer tout ça. Et j'ai encore d'autres livres à écrire, j'ai encore d'autres livres dans mon ventre. Si jeune, avoir déjà été applaudi, parfois consacré par des petits prix, et tout simplement figuré parmi de si grands, eh bien, moi, je reste très humble et très modeste face à tout ça. Et j'espère que ce chemin va se continuer, mais d'abord de l'humilité, de la persévérance et du travail.
Miguel Bonnefoy, on vous recommande son magnifique Héritage. Ah oui, Héritage aux éditions Rivage. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Sophie de Closet. Longue vie aux mémoires de Barack Obama, évidemment.
Et à tous les autres livres.
Cite-nous-en quelques-uns, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur celui-ci.
Non, c'est le plus populaire.
Il y a la Riyad Satouf qui cartonne, l'Arabe du futur, tome 5.
Oui, il y en a plusieurs qui cartonnent,
les BD, ça marche bien.
Il y a des livres, il y a, je sais pas, un livre d'histoire formidable de Jean-Christophe Brizard qui s'appelle Le Livre d'or d'Hitler, par exemple, qui fait partie de ces livres qui sont sortis juste avant le deuxième confinement et qui se lit plus palpitant et en plus tout est vrai comme une série Netflix, encore mieux. Il y a un livre de Yaron Herman sur la créativité dont on a tellement besoin, qui s'appelle Le déclic créatif, qui est sorti juste avant, je pense à eux, parce que c'était un ou deux oubliés du deuxième confinement. Mais des livres surtout, allez en librairie, faites confiance à votre instinct, à votre libraire et offrez des livres.
Voilà, merci Sophie de Closet.
Merci
Miguel Bonnefoy, merci à tous les deux pour ce dossier du soir 19h29.